Suivez Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance. Priorité Santé, Igor Strauss.
Bonjour à tous. 9 mois lorsque la grossesse est confirmée, une grande et belle histoire commence qui durera 9 mois. Une période pendant laquelle le corps de la future mère va subir de multiples transformations pour permettre à un embryon de devenir fœtus puis bébé. 9 mois pour porter une vie, donc 9 mois pendant lesquels chaque étape s'enchaîne comme par magie car la nature est bien faite, elle a tout prévu. En théorie, il suffirait donc de la laisser faire, mais ce serait oublier que cette aventure extraordinaire est jalonnée de joie, mais aussi de doutes et d'interrogations. Alors certes, chaque mère possède déjà des aptitudes insoupçonnées pour mener à bien la grossesse, l'accouchement et l'accueil du nouveau-né, mais dans certains cas, il peut être utile de bénéficier de conseils des professionnels pour lever certains doutes et être rassuré sur ses pratiques. Pendant presque 1 heure donc, nous allons revenir sur ces 9 mois de grossesse avec notre invitée, le docteur Nadia Berkane, gynécologue obstétricienne à la maternité des hôpitaux de Genève en Suisse. Nous partirons également au nord du Burkina Faso avec Adjima Sanya, sage-femme d'État, pour parler du suivi de la grossesse dans les zones reculées. Et enfin, nous irons à Niakara, en Côte d'Ivoire, avec Julie Conné, présidente du Centre féminin pour la démocratie et les droits humains, pour parler d'un fléau contre lequel il est difficile de lutter, les grossesses précoces qui ravagent la vie de milliers de petites filles. Voilà pour le programme Priorité Santé. Bienvenue à tous.
Priorité Santé sur RFI.
Docteur Nadia Berkane, bonjour.
Bonjour Monsieur Strauss.
Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être en direct avec nous dans Priorité Santé. Alors, actualité oblige, on va commencer avec la pandémie de Covid-19. Pourquoi est-ce que les femmes enceintes sont particulièrement exposées au Covid-19, Docteur Berkane?
Alors, effectivement, il y a une pandémie de Covid-19 à travers le monde et qui touche aussi l'Afrique. Et pourquoi les femmes enceintes sont exposées? Parce que elles ont une immunité qui est diminuée. Et elles le savent bien parce qu'elles sont plus sensibles à de nombreuses infections, des infections urinaires ou des infections virales. Donc, elles ont le risque d'attraper la Covid-19.
Oui. Il faut donc adapter au fait le suivi de la grossesse au contexte épidémique, si j'ai bien compris.
Tout à fait. Il faut qu'elles sont enceintes, donc elles ont un bébé qui est en cours de formation. On ne sait pas encore grand-chose sur le risque de la Covid-19 chez les femmes enceintes et surtout sur leur bébé. Jusqu'à il y a très peu de temps, on pensait que ce virus ne pouvait pas traverser le placenta. Et cela n'est pas exact, puisqu'une équipe française a montré que le virus pouvait traverser le placenta.
Oui, ça a été révélé par une étude publiée dans la revue Nature Communication.
Tout à fait.
Comment on explique justement cette contamination intra-utérine? Est-ce qu'on a déjà le recul nécessaire pour l'expliquer ou pas?
Mais comme tout virus, on va dire, on était même étonné qu'il traverse pas le placenta. Comme tout virus, il a été montré qu'il peut traverser le placenta. On sait très bien que pour la rubéole ou le cytomégalovirus ou d'autres virus, on sait que ces virus-là traversent le placenta, peuvent contaminer le bébé et selon le moment où ça arrive, peuvent même être à l'origine de graves problèmes chez l'enfant à venir. Pour la Covid-19, on ne sait pas si ça donne des problèmes. En tout cas, maintenant, on doit être alerté par le fait que ça peut traverser le placenta.
Mais alors, on n'a pas forcément justement le recul nécessaire pour connaître les conséquences pour le nouveau-né. Est-ce qu'on a des doutes quand même?
Ce qu'on savait jusqu'à cette étude qui a montré le premier cas, ce qu'on savait, c'est que certaines mamans qui étaient contaminées très proches de l'accouchement allaient contaminer leur enfant juste après la naissance, lorsqu'elles s'en occupaient en fait. Et les enfants, certains, pouvaient présenter pas grand-chose ou un tableau de rhume, entre guillemets. Mais on est en direct dans cette pandémie, donc il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas.
Les choses évoluent de jour en jour, évidemment. Alors, Au-delà du Covid-19, les femmes enceintes doivent être attentives à certaines infections hein, potentiellement dangereuses pour l'enfant. Quelles sont justement les principales infections à craindre? Faut-il se faire dépister systématiquement, docteur Berkane?
Alors, les principales infections les plus communes et à travers le monde, ça va être la rubéole. Et généralement, ce que l'on fait, c'est que pour les femmes qui vont être enceintes ou en tout début de grossesse, on va faire une prise de sang pour voir si la femme a déjà fait la rubéole. Si elle n'est pas encore enceinte, on pourra la vacciner en attendant le moment où elle voudra avoir une maternité. Et puis, si elle est déjà enceinte, on va lui dire de ne pas approcher les gens qui sont malades. Ben, ça peut être la rubéole, ça peut être le cytomégalovirus.
Ce qui est un virus qui est très fréquent, hein, qui se transmet au contact des jeunes enfants, si je crois bien.
Tout à fait. Le cytomégalovirus, les jeunes enfants, donc on conseille aux femmes enceintes qui seraient négatives pour le cytomégalovirus ou pas dépistées, de ne pas approcher les enfants, en particulier les enfants malades et les adultes malades. Et puis il y a la grippe. Tous les ans, on peut vacciner en cours de grossesse. Le vaccin est faisable et on le recommande. Et voilà, pour ce qui est in utero.
Et concernant la toxoplasmose, est-ce qu'il faut dépister encore aujourd'hui ou pas?
Ça, c'est une vaste question parce que le dépistage systématique, c'est quelque chose d'un peu franco-français, qui se fait pas dans beaucoup d'autres pays dans le monde, anglo-saxons particulièrement, ou même en Suisse où je suis, où le dépistage ne se fait pas systématiquement. Mais en France, certains se posent encore la question de doit-on poursuivre les dépistages systématiques, mais à ce jour, oui.
Alors, docteur Nadia Berkane, je vous propose de reprendre les choses dans l'ordre. Vous le savez sans doute, hein, de nombreuses jeunes filles en Afrique habitent loin des centres urbains et n'ont pas forcément accès aux tests de grossesse. Quels sont les premiers signes qui doivent les alerter? Comment savoir qu'on est enceinte, docteur Berkane?
Les premiers signes qu'on appelle les signes sympathiques de grossesse et qui ne sont pas toujours sympathiques d'ailleurs, ça va être d'abord le retard de règles. Chez quelqu'un qui aurait ses règles tous les mois de manière régulière, eh bien là, les règles ne viennent pas, une semaine, deux semaines. Ça s'associe à des seins qui sont douloureux, tendus, où on peut voir les petites veines dessus, et puis à une somnolence et à des nausées ou des vomissements. Et tout particulièrement dans la population africaine, il y a cette tendance à avoir des nausées et des vomissements qui peuvent perdurer d'ailleurs assez longtemps.
Alors ça, c'est une question importante que nos auditeurs nous posent fréquemment, on y reviendra évidemment. Le paradoxe des premiers mois de grossesse, c'est que c'est invisible, hein, alors que l'organisme vit déjà de profonds changements avec, aux commandes, docteur Berkane, les hormones de la grossesse, c'est bien ça?
Tout à fait. C'est d'abord l'HCG, donc cette hormone que l'on dose dans le test de grossesse, qui va donner ces signes et puis surtout qui va permettre l'implantation et le développement de l'œuf. Et puis après, les autres hormones que tout le monde connaît, les œstrogènes et la progestérone pour les principales, qui vont être synthétisées par le placenta.
Alors, les premiers mois de grossesse pour les femmes enceintes, c'est aussi le moment de changer certaines habitudes, éviter certains aliments, arrêter de fumer ou de boire si l'on est consommateur de cigarettes ou d'alcool, et puis de surtout, là je pense à nos auditrices qui nous écoutent en Afrique, ne pas faire d'automédication.
Oui, alors on va dire... idéalement, parce que c'est toujours très facile de dire faut pas fumer, faut pas boire, mais il est terriblement déconseillé de boire de l'alcool pendant la grossesse. Et dans l'alcool, j'y inclus la bière, qui est utilisée à travers le monde, dans les pays anglo-saxons, dans le nord de l'Europe et en Afrique. La bière est de l'alcool et ne doit pas être prise pendant la grossesse. Les drogues, évidemment, à oublier, et puis il faudrait idéalement arrêter de fumer, et on peut mettre des patchs par contre, ou des gommes de nicotine pour remplacer le tabac, parce que pour une femme à qui on dit il faut plus fumer, il faut plus boire, ça fait déjà beaucoup. Et mais puis il y a encore d'autres choses qu'on va lui dire.
C'est ça, ce sont des addictions, donc c'est compliqué parfois d'arrêter, il faut limiter au maximum, c'est ça qu'il faut dire.
Vraiment limiter. L'alcool donne des syndromes fœto-alcooliques avec des retentissements sur l'enfant, même avec des doses peu importantes. Et tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc il faut ne pas boire pendant tout le temps de la grossesse.
Un petit mot sur l'alimentation, il faut avoir un régime alimentaire particulier. On sait que de nombreuses femmes enceintes souffrent de constipation notamment. Du coup, quel est comment adapter son régime alimentaire?
On va dire qu'il y a des produits qui sont à éviter le temps de la grossesse en raison de certaines infections qu'on peut contracter en les consommant. Ça va être les coquillages, les crustacés qui souvent se mangent crus, les crevettes, pour ceux qui mangeraient du foie gras, le foie gras, parce qu'il y a des risques de listériose, donc la listeria, cette maladie qui peut donner des pertes de bébé, des avortements ou des accouchements prématurés. Ensuite, il faut avoir une alimentation variée et il faut éviter aussi le lait cru ou les fromages ou lait cru à cause de la listériose. Et puis, on ne mange pas pour deux. L'ancien adage de « il faut manger pour deux » ne devrait plus avoir cours. Il faut manger sainement et en variant son alimentation et pas pour deux.
Généralement lors d'une grossesse, la prise de poids, c'est combien? C'est 12 kilos en tout à peu près, ou c'est, il faut contrôler ça, ou c'est important ou pas,
hein? C'est très important. Alors, on ne peut pas dire c'est 9 à 12 kilos, mais en fait, ça va...
Ça dépend de chacun, évidemment.
Poids. Voilà, ça va dépendre du poids de départ, déjà. Si la femme est très mince, elle peut prendre jusque 16 kilos. Si elle est déjà en poids normal ou en surpoids, il est idéal qu'elle prenne 9 à 12 kilos. Et si elle est atteinte d'obésité, alors là, il faut essayer de prendre encore moins de poids, très peu de poids.
Alors, à quel moment est-ce qu'il faut faire la première consultation prénatale et qu'est-ce qui se passe finalement lors de ce premier rendez-vous?
Alors déjà, c'est pas une réponse univoque et universelle, ça va dépendre des pays où on est. Dans les pays où on va faire un dépistage de la trisomie 21, idéalement, il faudrait faire la première consultation vers 11 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 11 semaines d'absence de règles, parce que ça permettra de faire le point sur la grossesse, voir s'il y a 1, 2, 3 bébés, par exemple, bien vérifier que la grossesse soit dans l'utérus, qu'elle soit évolutive, et puis en mesurant la nuque du bébé, et éventuellement, en y associant des prises de sang, on pourra dépister la trisomie 21. En tout cas, pour de nombreux cas. Si on va dans des pays, voire même les États-Unis, où on ne dépiste pas forcément la trisomie 21 selon les États, il faudra en tout cas avoir fait une consultation avant 20 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire 20 semaines d'absence de règles.
Et pour la première échographie, quand a-t-elle lieu? Généralement, on dit à partir du troisième mois, c'est cela ou?
C'est celle-là, c'est celle qui est donc vers 11-12 semaines d'aménorrhée, qui permet, donc je vous ai dit, de bien vérifier que la grossesse est dans l'utérus, qu'elle est évolutive, qu'il y en a un ou deux ou trois, qu'on peut faire déjà voir les bras, les jambes, la tête et un certain nombre d'éléments pour dépister que tout va bien.
Et ce troisième mois, il est essentiel parce que c'est là que les risques de fausse couche s'éloignent, c'est ça? On peut être rassuré après trois mois?
Alors, rassuré, jamais à 100%. Mais on peut être largement rassuré quant au risque de fausse couche du premier trimestre si on atteint tranquillement et avec une écho normale les 11-12 semaines d'aménorrhée.
C'est pour ça que généralement on attend 3 mois pour l'annoncer à la famille. À partir de quel moment, docteur Berkane, est-ce qu'on sent le bébé bouger? Parce que ça, c'est une étape aussi importante pour les mamans.
Oui, c'est une étape très importante parce que ça va les rassurer et puis parce qu'elles vont encore plus s'impliquer dans la grossesse. Et voire même, si on le voit bouger à travers le ventre, le papa va s'y impliquer aussi. Et ça va dépendre de si c'est le premier ou si c'est le deuxième ou troisième ou quatrième. Parce qu'au début, ça fait comme des petites bulles dans le ventre. Et les femmes dont c'est le premier bébé n'arrivent pas à imaginer que c'est des mouvements de bébé. Elles pensent que ce sont de simples gaz. Et souvent, premier bébé, on va le sentir vers 20 semaines. 22 semaines, alors que si c'est un deuxième, un troisième, un quatrième, dès 16 semaines, on perçoit les mouvements.
Est-ce que ça entraîne une plus grande harmonie? Finalement, on se sent plus connecté à un être qu'on sent bouger. Les retours que vous avez, c'est que vous disent vos patients, enfin les femmes que vous avez suivies?
Généralement, oui. Après, l'imbibition des hormones fait que un certain nombre de femmes se sentent déjà bien enceintes et complètement connectées à leur bébé dès le début de la grossesse, encore plus si elles le voient à l'échographie, elles le voient bouger, etc.
Alors, à partir de quel moment est-ce qu'on peut déterminer le sexe de l'enfant?
Alors, à l'échographie, on
Mais vers quel mois? Là je raisonne en termes de mois.
Hein. Alors.
Cinquième mois, on va dire, la moitié?
Alors, cinquième mois, c'est-à-dire la deuxième échographie. A priori, on devrait le voir, sauf s'il est en position acrobatique. Mais quelquefois, on peut le voir avant, dès la première écho, ou à une échographie intermédiaire vers 15-16 semaines d'aménorrhée. Simplement, si on n'est pas sûr, surtout, il faut que le médecin s'abstienne de donner des pronostics parce que ça peut décevoir les parents si finalement, à l'écho suivante, on a changé le sexe du bébé.
Oui, c'est sûr que si le sexe change, ça peut être problématique pour les parents. Alors, on avance hein, toujours, on arrive vers le sixième mois, le ventre s'arrondit de plus en plus. Du coup, l'équilibre se modifie, on a un centre de gravité qui change. Quelles sont les conséquences du tout, docteur Berkane?
Alors, je dirais déjà, les signes positifs, c'est que dès qu'on a passé le troisième mois de grossesse, on arrive dans une phase entre la fin du troisième mois puis le septième mois, une phase qui est très agréable pour les femmes. Elles voient leur corps changer, elles se sentent en général très belles, elles ont de beaux cheveux, de beaux ongles, et elles sont très valorisées, et c'est très agréable. Voilà, ça c'est...
Pour les côtés positifs et le ressenti des femmes.
Et le ressenti des femmes. Les côtés négatifs, c'est qu'avec le centre de gravité qui change, dès 4-5 mois de grossesse, on peut commencer à se casser la figure, entre guillemets, c'est-à-dire les femmes enceintes tombent plus facilement. Nous, à nos urgences, on voit une surreprésentation de gens qui sont tombés dans les escaliers, puis ils n'ont pas vu leurs pieds, ou en ne voyant pas le trottoir, par exemple.
Donc, prudence. Le sixième mois, c'est aussi lors de ce sixième mois qu'on doit faire attention au diabète gestationnel.
Oui, c'est le moment où on va dépister le diabète gestationnel. Alors là encore, tout dépend du pays dans lequel on réside. Il y a des pays et des médecins qui dépistent systématiquement pour tout le monde. Et puis il y a des équipes qui dépistent que les gens à risque. Si on s'intéresse à la population en Afrique, on va dire qu'il y a beaucoup de gens à risque et qu'un dépistage systématique serait une bonne chose.
Diabète, hypertension, il faut vraiment les surveiller de très près.
Oui.
Pendant la grossesse.
Il faut les surveiller de très près partout dans le monde et encore plus en Afrique où on a une surreprésentation de femmes enceintes avec de l'hypertension ou avec une prééclampsie qui est une maladie hypertensive de la grossesse et le diabète.
Alors on avance encore, hein, on arrive au huitième mois. En Europe, c'est le départ en congé maternité. On peut enfin se reposer à ce moment-là ou finalement pas du tout, docteur Berkane?
En Europe, j'ai donné l'exemple de la Suisse. En théorie, il n'y a pas de congé maternité.
Moi, je pensais à la France, évidemment.
Voilà. Et pour la France, c'est... 6 semaines avant, on va pouvoir s'arrêter. Aux États-Unis, on ne va pas s'arrêter. Ou en Israël, par exemple, on ne va pas s'arrêter jusqu'à l'accouchement.
Mais pourtant, les femmes ont besoin de repos à ce moment-là.
Oui, oui. Et l'idée, le Covid nous a, enfin l'épidémie de Covid-19 nous a appris quelque chose, la pandémie, c'est qu'il y a eu le confinement dans beaucoup de pays. Et dans tous les pays où il y a eu le confinement, les néonatologues semblent avoir vu une baisse assez importante de prématurés.
Ah oui?
Donc peut-être à mettre en lien avec le repos, l'absence de trajet, l'absence de stress au travail.
Ça, il faudra attendre d'avoir un peu plus de recul pour en être convaincu.
Tout à fait.
Le neuvième mois, comment est-ce qu'il est vécu par les femmes? C'est appréhension, fatigue, l'accouchement approche?
Alors, il y a... Tout type de femmes et chacune a sa façon de penser. Il y a celles qui ont hâte d'accoucher, il y a celles qui ont peur d'accoucher, il y a celles qui voudraient prolonger la grossesse. Souvent, elles sont quand même plus fatiguées, elles ont plus de mal à se mobiliser, elles peuvent avoir des petits maux de la grossesse comme les hémorroïdes, les varices, les œdèmes. C'est pas toujours simple. Le manque de sommeil, parce qu'elles ont des... Moi, j'ai... Ma philosophie me fait penser que le corps se prépare aux nuits sans sommeil et à toujours entendre le bébé. Et du coup, la fin de grossesse, elles ont des insomnies en fait nocturnes. Donc c'est pas toujours simple.
Et oui, bah, j'imagine. À quel moment est-ce qu'il faut se rendre à la maternité?
Alors,
quand on peut aller à la maternité, évidemment. Hein.
Oui. Oui, quand on peut aller à la maternité, il est bien d'avoir été connu des équipes de la maternité, puis d'avoir repéré les lieux. C'est plus sécurisant pour le projet que l'on a imaginé. Et il faudrait être connu de l'équipe qui va vous accoucher le dernier mois de grossesse, même si on a été suivi ailleurs, en ville ou en dispensaire auparavant.
Est-ce qu'il faut s'inquiéter si on dépasse le terme ou pas ? Et est-ce que c'est fréquent, ça, finalement ? Parce qu'on détermine une date de naissance au début de la grossesse, mais ça peut changer, évidemment.
Alors, on détermine une date d'accouchement qui, selon les pays, va être 40 ou 41 semaines. En France, on considère que le terme est à 41 semaines et on donne environ 3 jours supplémentaires de dépassement de terme. Donc, on va jusqu'à 41 plus 3. Et dans les pays anglo-saxons, on s'arrête à 40. On dit que le terme, c'est 40 semaines, mais on donne 10 jours. Donc, tout le monde arrive à 41 plus 3. En fin de grossesse, il faut surveiller les grossesses. C'est banal de dépasser son terme, mais on doit être surveillé, c'est-à-dire que on doit idéalement enregistrer le cœur du bébé pour vérifier que tout va bien, au minimum.
But it's too late and there's no cure, no sedating all this pain we're generating, this prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps your little feet in. And dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side.
Priorité santé sur RFI.
Ici, moi, je fais ici les accouchements inopinés. Mais les accouchements inopinés, c'est là-bas, au poste de santé. Je fais des soins à domicile, les mères avec les nouveau-nés. Si le nouveau-né a des cas de danger, je vais référer au poste de santé.
Et il est où le poste de santé ?
Il est à Menachérif, à Nambé, Mampati. C'est au Goudron.
Ah, donc c'est loin déjà ?
C'est loin. Parce que si c'est une femme enceinte, si elle a un travail ou bien elle a des saignements, des cas de gravité, pour référer jusqu'au poste de santé, il y a des problèmes. Parce qu'on n'a pas d'ambulance, on n'a pas de voiture, il y a les problèmes de moto ni charrette. Ici, la route là, il y a de l'eau. Pour passer une charrette, pour amener une femme enceinte ou bien un nouveau-né, il y a des problèmes d'aller arriver au poste de santé. Parce que j'ai une cas ici, en 2012, la femme a saigné. On l'a amenée à Anambé. Pour arriver à Anambé, l'enfant a décédé. Voilà.
C'était Salimatou Gala, matrone bénévole depuis 15 ans dans le village de Diatafa, en Casamance, au Sénégal. Donc, Adjima Sania, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes sage-femme d'État en service dans le centre de santé et de promotion sociale de Kosuka, le district sanitaire de Séguénéga, dans le nord du Burkina Faso. Ces problèmes d'isolement, d'enclavement qu'on vient d'entendre et de difficulté de l'accès aux soins, bien notamment prénataux, eh bien, ils vous sont familiers, ces problèmes, à vous aussi?
Oui, ils nous sont familiers également. Nous avons presque les mêmes problèmes ici.
Alors parlez-nous justement de vos conditions de travail.
Les conditions de travail sont un peu difficiles parce que non seulement il y a le manque de personnel, Et aussi, il y a
l'accessibilité. Vous n'êtes que deux, c'est ça, à travailler pour la maternité?
Oui, nous sommes que deux sages-femmes. Oui.
Et alors du coup, est-ce que vous arrivez quand même à suivre toutes les femmes du village et aux alentours du village et comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez pour les CPN, les consultations prénatales? Expliquez-nous un peu.
Ok, et nous arrivons en tout cas à suivre toutes les femmes, mais c'est vraiment une surcharge de travail. Voilà, parce que on a presque, la population c'est 9200 habitants. Mmh. Voilà, pour deux sages-femmes, c'est vraiment beaucoup.
Est-ce que vous pouvez faire des échographies sur place?
Non, pas sur place. On ne fait pas d'échographie sur place. On envoie la femme dans un centre plus équipé pour faire les échographies.
Et elles y vont? C'est pas trop loin?
C'est un peu loin, mais bon, elles y vont quand même. Parce que quand on les explique l'importance de l'échographie et surtout les avantages après ça, bon, elles partent quand même. Il y a certaines qui y vont, mais il y a d'autres aussi, comme c'est payant, et c'est difficile pour elles.
Mmh. Docteur Anadia Berkan, on imagine que suivre des mamans sans pouvoir faire d'échographie, c'est problématique, non?
Oui, très problématique. Ouais.
Là, je demandais, restez avec nous, hein, oui. Adjima Sagna, je demandais à notre autre invitée, Nadia Berkan.
Okay. Finalement, oui et non, parce que
ces femmes y arrivent.
Déjà parce qu'elles y arrivent, et puis parce que j'ai assisté à un congrès aux États-Unis il y a un certain temps, c'était il y a 27 ans. Mais ils n'ont pas grandement évolué depuis, où la question c'était zéro ou une échographie pendant la grossesse. Donc, il n'y a pas qu'en Afrique où il y a peu d'échographies. Hein.
Mmh. Adjima Sagna, quels sont les besoins des femmes? Que vous disent-elles généralement?
Bon, c'est surtout le manque financier.
Et oui.
Le manque de moyens financiers et surtout le moyen de transport.
Mmh.
Voilà, parce que pour aller faire une échographie, il faut de l'argent, il faut un moyen de déplacement. Voilà.
Et avoir accès à un taxi, une moto ou une charrette, c'est compliqué. Avec la saison des pluies, c'est encore plus compliqué.
Ici, nous n'avons même pas de taxi-moto, donc ça fait qu'elles se déplacent avec leur propre moto ou bien à vélo. Voilà. Mmh.
Quels sont les principaux dangers pour les femmes enceintes au nord du Burkina, à Kosuka?
C'est surtout, il y a les avortements et les accouchements prématurés.
Ils sont fréquents?
Oui, c'est un peu fréquent. C'est un peu fréquent. Voilà.
Et ça, comment vous l'expliquez?
C'est surtout, il y a souvent les travaux, les choses. Ils font trop de travaux ménagers, il y a les travaux champêtres. Tout ça, ça peut provoquer un accouchement prématuré. Hein.
C'est ça, nous disiez en préparant cette émission que les femmes travaillent au champ toute la journée et que certaines veulent rester au champ alors qu'elles perdent les os finalement au champ.
Oui, c'est fréquent.
Mais pourquoi est-ce
qu'on... hivernale.
Et pourquoi est-ce qu'elles ne se reposent pas un peu et que les autres mamans ne leur disent pas d'aller vite à l'hôpital?
Je me dis que c'est surtout dû à la pauvreté, hein, puisque elles ne se nourrissent que des revenus des travaux champêtres.
Mmh.
Si elles ne partent pas cultiver, elles n'auront rien pour vendre pendant la saison sèche pour satisfaire ses besoins. C'est surtout ça.
Ouais. Quels sont les autres problèmes que vous rencontrez lors des accouchements? Et quel est votre plateau technique finalement?
Notre plateau technique, il est très insuffisant parce que nous n'avons pas de matériel. Nous ne travaillons qu'avec nos 10 doigts. Voilà. Il n'y a pas de matériel pour prendre en charge les femmes en cas de complications.
Mmh.
Donc, on est là. Si une femme vient, on fait ce qu'on peut. Et entre-temps, on voit qu'il y a une complication. Surtout si elle n'a pas fait d'échographie, le travail commence, on commence à la suivre avec le pathogramme. À un moment donné, on voit qu'il y a un problème. On ne peut rien faire. On l'envoie au centre médical qui est à 15 km du CSPS.
Mmh. Est-ce que du coup la mortalité maternelle et infantile est élevée ou pas?
Bon, elle n'est pas élevée, parce qu'on fait de notre mieux.
Parce que vous êtes des professionnels.
Oui.
Faisons un rêve, de quoi auriez-vous besoin prioritairement pour améliorer vos conditions de travail et donc améliorer le suivi de ces femmes enceintes?
Surtout le personnel. Je me dis que si on a un personnel qualifié et en quantité, on pourra quand même prendre mieux en charge les femmes. Parce que là, c'est des trucs de routine, en fait. On n'a pas le temps vraiment pour prendre complètement en charge. On fait de notre mieux, quoi.
Mmh.
Donc ça fait, avec deux sages-femmes, c'est pas facile. Parfois, on se retrouve avec des femmes pour la consultation prénatale, la consultation postnatale en même temps, le même jour. Et en même temps, il y a des femmes qui sont peut-être en travail, en salle d'attente. Donc tout ça pour deux personnes, parfois même tu te retrouves seule avec tout ce monde-là. Tu ne fais que courir, tu ne sais même pas par où commencer.
Eh oui,
donc
du coup,
c'est tout le personnel.
Mais
ouais. Voilà.
Et bien, du coup, vous travaillez 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Merci beaucoup, Hajima Sania. Merci d'être passé dans Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes sage-femme d'État dans le centre de santé de promotion sociale de Kosuka. C'est le district sanitaire de Séguénéga, dans le nord du Burkina Faso.
Quand je dis fermez les champs. Fermez les gens.
Ouvrez les
cahiers. Oh, fermez les gens. Ah, avancez. Aujourd'hui, il y a un peu de
fermez les jambes, ouvrez les cahiers, un message choc pour lutter contre les grossesses précoces en milieu scolaire. C'était en 2015 dans le lycée Henri Conan Bédier de Daoukro dans la province de Lifou en Côte d'Ivoire. Ce jour-là, eh bien, c'est Misty Cool, le prof d'art plastique amateur de reggae, qui lançait ce message repris en chœur, vous l'avez entendu, par tous les élèves du lycée. Bonjour, je l'y connais.
Bonjour monsieur.
Vous êtes présidente du Centre féminin pour la démocratie et les droits humains à Niakara en Côte d'Ivoire.
Est-ce
voilà, vous luttez également contre ce fléau des grossesses précoces. Vous vous rappelez de cette campagne de sensibilisation qui avait été lancée en 2015 en Côte d'Ivoire?
Oui, bien sûr, nous avons suivi cette campagne. Nous avons vu que le ministère de l'Éducation nationale a bien voulu mettre en œuvre cette campagne pour éviter les grossesses en milieu scolaire. Parce que le constat était clair, c'est qu'il y avait beaucoup plus de grossesses en milieu scolaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous permettons aux filles de continuer d'aller à l'école. Mais ce qu'il faut faire, c'est éviter que ces filles-là tombent enceintes pendant leur cursus scolaire.
Mais est-ce que vous pensez que la situation s'est améliorée depuis 2015 ou toujours pas?
Le bilan est mitigé. Le bilan est mitigé parce que depuis 2015, ce que nous constatons surtout, c'est qu'on ne chasse plus les filles parce qu'elles sont enceintes. Parce que ce qu'on avait constaté dans le temps, c'est que lorsqu'une fille est enceinte, on voulait la marginaliser, elle était stéréotypée, de sorte qu'elle ne venait plus à l'école. De plus en plus, on accepte les filles à l'école, même quand elles sont enceintes. Il y a eu une baisse au milieu en ce qui concerne le primaire, parce que nous avions aussi des filles qui étaient enceintes dans les écoles primaires, mais dans les écoles secondaires, le bilan reste mitigé. Le bilan reste mitigé, mais la sensibilisation continue. Nous faisons en sorte de réduire ces nombres de grossesses en milieu scolaire.
Et à quoi vous les attribuez ces grossesses précoces, hein, qu'elles soient en milieu scolaire ou non scolaire? Mais voilà, comment expliquez-vous le nombre important de grossesses précoces encore aujourd'hui?
D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord c'est que en Afrique, surtout dans les zones du nord de la Côte d'Ivoire, la religion est vraiment prépondérante, de sorte que les jeunes filles ont du mal à avoir recours à la contraception immédiatement. Pour elles, avoir recours à un moyen contraceptif, c'est montrer directement qu'on est une fille qui n'est pas de bonne vertu.
C'est encore considéré comme de l'incitation à la débauche, on en est encore là?
Exactement, oui, encore là. Et ça, je parle des contrées de la Côte d'Ivoire. Je ne parle pas de la grande ville d'Abidjan, mais je parle des villes de l'intérieur du pays où on a encore ces mentalités-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui concerne, par exemple, le département de Niakara où nous travaillons, le CEF s'y travaille, c'est que les élèves quittent les villages parce que le lycée est dans le département de Niakara, mais les élèves viennent des autres villages. Et quand elles viennent dans le département de Niakara, parfois il n'y a pas de tuteur, ou même quand il y a un tuteur, les élèves sont livrés à elles-mêmes. Nous avons des élèves qui louent des maisons avec des filles et des garçons dans les mêmes maisons, donc vous imaginez ce qui se passe. Et à côté de cela, on a des parents qui n'ont pas suffisamment de moyens, dont les enfants sont à l'école, les enfants louent des maisons, mais il n'y a pas de suivi. Et du coup, c'est souvent pour des boutiques que ces petites filles-là sont détournées parce qu'elles ont faim. Et ce qu'il faut retenir vraiment, c'est vraiment la précarité dans laquelle ces jeunes filles et ces jeunes garçons vivent.
Oui, c'est ça. En fait, elles sont obligées de monnayer des relations sexuelles.
Exactement,
pour avoir un peu de crédit téléphonique, un bout de viande par-ci par-là. C'est la précarité et la pauvreté.
Nous avons même eu une histoire où il y a un boucher qui a engrossé plusieurs filles. Et c'est peut-être cela qui a créé le déclic au niveau du CEFSI. Et nous avons dit que c'est vrai que depuis 2003, le CEFSI, avec la première présidente, Mme Traoré Nathalie, nous travaillons pour la scolarisation de la jeune fille. Mais on s'est dit que le débat n'était plus tant la scolarisation de la jeune fille, mais surtout le maintien de cette petite fille dans le cursus scolaire. Et pour la maintenir dans le cursus scolaire, il faut qu'elle puisse avoir des valeurs, il faut qu'elle puisse avoir des modèles. Et nous, le CEFSI, ce que nous faisons, c'est d'abord recueillir ces filles-là, trouver ces filles, les sélectionner sur deux critères. Le premier critère, c'est d'abord le potentiel. Le second critère, c'est la vulnérabilité. Ce sont des filles qui sont orphelines, qui ont des parents vraiment qui vivent dans des situations difficiles, ou qui ne sont même pas du département de Niakara, qui sont dans des villages. Et donc, quand ces filles-là sont recrutées, nous leur donnons des kits scolaires en début d'année. C'est-à-dire, elles ont d'abord leur fourniture scolaire. Et chaque fin de mois, elles ont leur kit de toilette. Le kit de toilette qui comporte tout ce dont une jeune fille a besoin pour se sentir en sécurité. Parce que dans l'enquête que nous avons faite avant 2014, nous avons demandé aux jeunes filles, mais qu'est-ce qui fait que toi, une jeune fille qui va à l'école et qui devrait avoir confiance en ton avenir, peut aller avec un boucher, avec le petit menuisier du quartier? Et ce qu'elle nous disait, non, c'est pour acheter ma pommade, c'est pour acheter mon lait de toilette, c'est pour acheter mon déodorant. Et donc, nous faisons en sorte que ces filles-là n'aient plus ces soucis-là.
Bien
donc,
sûr.
Elles ont un kit de toilette qui comporte tout ce qui est serviette hygiénique et tout cela. Et elles sont obligées de venir étudier dans notre centre qui est situé en pleine ville de Niakara, non loin même du lycée. Et il y a deux monitrices qui les suivent. Les monitrices suivent aussi leurs résultats scolaires et les résultats sont extraordinaires. Nous avons les résultats des filles de cette année et on a des 16 de moyenne sur 20, des 17 de moyenne sur 20. Et c'est toujours avec plaisir que je parle de ces filles-là qui sont les filles du CEFSI et qui font notre fierté.
Bah, il faut les féliciter, voilà, et vous féliciter également de les protéger parce que, rappelons quand même, Julie Conné, qu'à cet âge-là, le corps d'une jeune fille n'est absolument pas prêt à porter un enfant et à accoucher. Et que, eh bien, chaque grossesse précoce, eh bien, apporte son lot de drames, comme en témoigne ce reportage.
Malheureusement.
J'avais 15 ans lorsque j'ai eu la fistule. Je l'ai eu lors de l'accouchement de mon premier enfant.
Et vous aviez accouché où?
J'ai accouché dans un village à la frontière avec la Guinée-Bissau.
Et qu'est-ce qui s'est passé du coup?
Ma grossesse avait 10 mois, donc le travail a commencé à la maison. On m'a retenu à la maison pendant 2 jours par mes parents. Ensuite, je ne pouvais pas accoucher. Je suis venue au niveau du poste de santé. Je suis restée là-bas aussi pendant 2 jours. Je ne pouvais pas accoucher. Ensuite, ils ont tout fait. J'ai accouché finalement. Donc en fait mon enfant, c'était la première grossesse, mon enfant était vraiment décédé, l'enfant est mort à la suite de cet accouchement. C'est depuis lors que j'ai commencé à voir, à remarquer mes urines couler. Donc lorsque j'ai accouché, j'ai quitté l'hôpital pour repartir au village. C'est en cours de route que j'ai senti tous mes habits mouillés. Arrivé à la maison, j'ai montré à ma maman, elle m'a dit que c'est une maladie qui est à l'intérieur. Donc on va aller voir un marabout, un tradi praticien qui va te guérir. J'étais jeune, je n'avais que 15 ans, je ne savais rien du tout. Donc, ma maman m'a amené voir un tradi praticien qui m'a donné des médicaments, les feuilles des racines, pendant plusieurs années. Et une fois, une amie à ma maman a entendu le communiqué à la radio, sachant que j'avais ce problème, elle est venue elle a informé ma maman, et c'est ainsi que ma maman m'a amenée pour m'inscrire au programme. J'ai eu vraiment une première intervention.
Témoignage d'une jeune fille de Casamance. Docteur Nadia Berkane, pardon, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que sont les fistules obstétricales et à quel point il est compliqué parfois de les prendre en charge ?
Oui, alors juste, elle a dit que la grossesse avait duré 10 mois, probablement c'était une grossesse qui était plus jeune, pas 10 mois, mais 9 mois, et il n'y avait pas eu d'échographie au début pour bien la dater. Mmh. Alors la fistule, en fait, c'est une lésion qui est faite, c'est une plaie qui est faite entre le vagin, et puis là c'est une fistule urinaire, donc entre le vagin et le petit tuyau qui est juste devant le vagin, contre le vagin, qui s'appelle l'urètre, et qui nous permet qui est par là que passent les urines au sortir de la vessie. Et il y a eu une plaie qui s'est faite, qui n'a pas été vue à l'occasion de cet accouchement, qui a l'air d'être traumatique, déjà avec le bébé même qui est décédé. Et le traitement est chirurgical. Au début, je l'entendais parler du marabout et des plantes et des racines, mais effectivement, c'est la chirurgie qui a peut-être pu en venir à bout.
Mmh. Donc, Julie Conné, est-ce qu'elles sont fréquentes, les fistules obstétricales, du côté de Niakara ?
En Côte d'Ivoire, oui. Et même dans le nord du pays, nous avons beaucoup de fistules. Ce n'est pas seulement des filles des écoles, mais nous avons beaucoup de mariages précoces. Il faut savoir que le problème des grossesses précoces n'est pas dû seulement aux grossesses en milieu scolaire. Nous avons des mariages précoces, des mariages forcés qui continuent. Et donc, on a absolument cela. Et ça fait beaucoup de dégâts pour les femmes. Il y a plusieurs organisations qui luttent contre ce fléau, de sorte qu'elles sont prises en charge. Il y a eu beaucoup de sensibilisation, une bonne sensibilisation sur la question.
Excision, mariage et grossesse précoce, fistule, répudiation. C'est la quintuple peine pour ces jeunes femmes. Merci beaucoup, Julie Conné. Merci d'avoir été avec nous dans Priorité Santé. Je rappelle que vous êtes présidente du Centre féminin pour la démocratie et les droits humains à Niakara, donc en Côte d'Ivoire. Bonne journée à vous.
Merci, monsieur.
RFI. Docteur Nadia Berkane, nos auditeurs sont nombreux à souhaiter vous poser des questions. On va commencer avec Laure Dabel, qui est en direct avec nous. Laure Dabel, bonjour.
Bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé.
Vous êtes à Kisangani en RDC. Quelle est votre question, Laure Dabel ?
Oui, j'avais quelques préoccupations. En fait, je vis avec ma femme, il y a cela déjà plus de 6 ans, et elle n'a pas vraiment assez de difficultés pour concevoir. Mais après avoir eu ma première, ma fille est née en fait, et j'ai remarqué qu'elle commençait à avoir des difficultés pour pouvoir concevoir. Donc, si elle attrape la grossesse...
Elle a fait une fausse couche, c'est ça, votre femme, hein ?
Justement.
Voilà.
Donc, après 3 mois, 4 mois, elle fait des fausses couches, et c'était à 2 reprises.
D'accord, donc 2 fausses couches, et vous souhaitez savoir quelles sont les raisons, évidemment, de ces fausses couches. Je vais tout de suite donner la parole au docteur Nadia Berkane. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, on précise qu'il ne s'agit pas de faire des consultations radiophoniques, hein, juste donner des conseils. Qu'est-ce qu'on peut dire, docteur Berkane ?
Tout à fait. Alors, on peut dire déjà qu'il y a 3 types de fausses couches, de ce que les gens appellent fausses couches. Les fausses couches au premier trimestre, avant 12 semaines d'aménorrhée, donc 12 semaines sans les règles, et souvent, quand on fait sur des grandes populations, quand on analyse, il y a des anomalies chromosomiques, etc., qui peuvent expliquer ça. Et puis, après 3 mois de grossesse, il y a 2 types de fausses couches. Soit le bébé est mort dans le ventre, est décédé dans le ventre, et puis il finit par sortir ou un curetage est réalisé. Soit, en fait, c'est le col qui ne tient pas, qui s'ouvre très, très prématurément. Et du coup, on perd la grossesse d'un enfant qui peut naître avec quelques petits signes de vie avant de décéder. Et à 4 mois, ça pourrait ressembler à ça. Et donc, il serait important pour ce monsieur que son docteur refasse le point sur cette grossesse-là et voit s'il n'y a pas une indication à faire un cerclage pour les prochaines grossesses.
Voilà, Lord Abel, ce qu'on pouvait vous dire. Écoutez, bonne journée à vous et merci de nous avoir appelés. On retourne au standard et nous sommes avec Mamadou de Bamako au Mali. Bonjour Mamadou.
Bonjour.
Quelle est votre question pour le docteur Berkane?
Moi, ma femme est enceinte de 5 mois.
Oui.
Je voulais savoir si la constipation a-t-il un impact sur l'enfant.
Et comment faire pour qu'elle n'en souffre plus? On va tout de suite donner la parole au docteur Berkane. Je vous l'avais dit, c'est une question qui revient régulièrement, les problèmes de constipation.
Oui, parce que c'est très fréquent pendant la grossesse. Il y a un ralentissement à cause des hormones. Il y a un relâchement des muscles du côlon et du coup, on est constipé. Et ça n'a absolument aucun retentissement sur l'enfant. Si ce n'est que les dames peuvent avoir mal au ventre et à la fin on ne sait plus si c'est des contractions de l'utérus ou des contractions de l'intestin. Comment les traiter? En mangeant des fibres, en buvant 2 à 3 litres même d'eau par jour et en mangeant donc des légumineuses avec des fibres pour pouvoir avoir un transit le mieux possible. Mais c'est vrai que c'est un problème fréquent de la grossesse.
Merci beaucoup Mamadou d'avoir posé une question, j'espère que vous êtes satisfait de la réponse et on est avec Casimir à présent. Bonjour Casimir.
Oui, bonjour.
Alors vous êtes de Kinshasa, quelle est votre question?
Oui, ma question est celle-ci. Ma femme, elle a 24 ans, c'est sa première grossesse. Maintenant l'enfant, on est déjà à 7 mois et demi, mais l'enfant est toujours dans la position des sièges. Maintenant, je me pose la question si je dois m'inquiéter ou je ne peux pas être.
Eh bien, écoutez, le docteur Nadia Berkane va tout de suite vous dire s'il faut vous inquiéter ou pas.
Donc... Alors, on peut accoucher par le siège. Si le bébé n'est pas gros et si il se positionne bien. Maintenant, à 7 mois, il a encore, à 7 mois et demi, il a encore des possibilités de se retourner tout seul. Et sinon, le médecin peut faire ce qu'on appelle une version par manœuvre externe, c'est-à-dire en mettant la main sur le ventre, deux mains sur le ventre de la dame, une sur la tête du bébé, une sur les fesses. Ça se fait vers 36 semaines d'aménorrhée, c'est-à-dire un mois, enfin 5 semaines avant la date d'accouchement. Et on va, en mettant une pression dessus, essayer de tourner le bébé. Mais déjà...
Maintenant,
Oui, Casimir.
Oui, je vous écoute. Maintenant, par rapport à ça, ça va demander une opération ou ça va se faire seulement sans créer de problème à l'enfant?
Alors...
Très rapidement, docteur Berkane.
Oui, il peut tourner tout seul. On peut l'aider à le tourner en mettant les mains sur le ventre et ça fait normalement pas de problème à l'enfant. C'est exceptionnel. Mmh. Et ensuite, le moment de l'accouchement, il faudra choisir entre la césarienne et l'accouchement par les voies naturelles en fonction des capacités du docteur à faire les sièges et puis du poids du bébé.
Merci, merci docteur Berkane pour toutes ces explications. On remercie également Casimir qui nous appelait de Kinshasa, donc en RDC. C'est la fin de cette émission, vous l'avez compris, une émission qui a été préparée par Assetou Samake et Ophélie Lassène, comme d'habitude, à la technique et à la réalisation. C'était Didier Bleu et Didier Chérouze. Demain, nous parlerons de chirurgie cardiaque de l'enfant avec la chaîne de l'espoir. Merci infiniment docteur Nadia Berkane d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne à la maternité des hôpitaux de Genève en Suisse. Très bonne journée à vous et je vous dis à demain.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.